la paix. Il est 12h. Le journal de midi. Jean-Mélène Betty.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée au menu de ces 12h. Le gouvernement ivoirien prêt à accompagner le patronat pour un secteur privé plus dynamique et performant, c'est l'annonce faite par le Premier ministre lors de la cérémonie de clôture de la 11e édition du Forum économique CGC Academy 2023. Parlant de transport, le guichet unique améliore son système d'immatriculation des véhicules. On en parle dans cette édition. Dans l'actualité sur le continent, en RDC, plus de 6,9 millions de personnes déplacées internes du fait de la guerre ces derniers jours. Un record selon l'ONU. Et puis dans le cadre de l'invité de la rédaction, Gapiena Ouattara recevra le juriste et politologue Geoffroy Julien Kouao sur les questions de création des groupes parlementaires au Sénat où la quasi-totalité des membres sont du parti au pouvoir RHDP. Et puis en fin d'édition, vous aurez la revue de la presse présentée par Aoussi Potin. Voici pour l'essentiel. Ouvrons ce 12h avec un mot d'économie. 11e édition du Forum économique CGC Academy 2023. Le Premier ministre Robert Begrumombe a annoncé que le gouvernement ivoirien est déterminé à poursuivre et accompagner l'ensemble des actions engagées par le patronat ivoirien en vue de bâtir un secteur privé plus dynamique et plus performant dans notre pays. Il a donné cette information lors de la clôture le 27 octobre dernier de la CGC Academy 2023. Robert Begrumombe.
Le gouvernement que j'ai l'insigne honneur de diriger est totalement déterminé à poursuivre et à renforcer l'ensemble des actions engagées sous mes illustres prédécesseurs en vue de bâtir un secteur privé ivoirien plus dynamique et plus compétitif, pourvoyeur d'emplois décents et durables pour les jeunes. Il s'agit notamment de favoriser une intégration réussie des PME au tissu économique ivoirien ainsi qu'aux chaînes de valeur régionales et internationales de toutes les filières à grande valeur ajoutée afin de faire de la Côte d'Ivoire l'un des pays les plus attractifs de la sous-région. Nous comptons à cet effet associer le secteur privé aux séminaires gouvernementaux thématiques afin d'identifier ensemble les réformes spécifiques pour chaque secteur d'activité. Notre monde est en plein bouleversement. S'il est vrai que cette mutation s'accompagne de sérieux défis à relever, elle apporte également de précieuses opportunités pour l'éclosion du secteur privé africain. Sachez de saisir, en faisant preuve d'ingéniosité, d'audace et de pragmatisme. Soyez totalement assurés qu'en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le gouvernement continuera de faire du développement du secteur privé sa priorité absolue, en mettant tout en œuvre pour vous accorder le soutien bien ajusté de l'État dans le développement de vos entreprises.
À l'instant, le Premier ministre Robert Begrumombe. À sa suite, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME s'est penché sur les défis auxquels les entreprises doivent faire face pour élever la croissance économique de l'Afrique subsaharienne et plus particulièrement ivoirienne. Souleymane Diarra-Souba.
Quatre défis majeurs. Le premier défi est l'investissement dans l'innovation en vue de renforcer l'intégration des entreprises dans les marchés régionaux. Le deuxième défi est l'amélioration de la qualité. En effet, au-delà de son rôle en tant qu'instrument d'accès au marché et de facilitation du commerce, la qualité intervient comme un outil d'accélération de la transformation industrielle et manufacturière par sa capacité à permettre aux entreprises de mettre à niveau et de mieux écouler leurs produits sur les marchés nationaux et internationaux. Le troisième défi représente le renforcement des capacités des entreprises, les PME, les entreprises de taille intermédiaire, les grandes entreprises, à travers l'accompagnement et le financement. Le quatrième défi porte sur la digitalisation. Le développement fulgurant des technologies de l'information et de la communication ces deux dernières décennies, basé sur la recherche et l'innovation, a permis l'émergence au niveau mondial d'une économie numérique robuste et en pleine croissance qui impacte significativement développement, l'activité économique dans son ensemble, ainsi que la vie sociale. Le plan national de développement 2021-2025 a identifié 7 clusters, secteurs stratégiques prioritaires, sur lesquels notre pays dispose d'avantages comparatifs. Il s'agit de l'agro-industrie, la chimie et la plasturgie, les matériaux de construction, d'ameublement et d'équipement, l'industrie pharmaceutique, l'industrie textile, l'assemblage et l'emballage, la fabrication de pièces de rechange, le montage et assemblage d'automobiles.
Les propos du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME et ceux du Premier ministre ont été recueillis par Paul-Bénédicte Bolou. Autre chose à présent, la présidente de l'ONG ACI Alternative Citoyenne Ivoirienne, Pulchéri Gbalé, s'est prononcée récemment sur le nouveau gouvernement du Premier ministre Robert Begré-Mambé et la gouvernance en Côte d'Ivoire. Pour Pulchéri Gbalé, malgré les changements de chef de gouvernement, le nombre de ministres reste préoccupant et la suppression du ministère de la Réconciliation nationale est mal à propos. Écoutons Pulchéri Gbalé, président de l'ASI Alternative Citoyenne Ivoirienne.
On a retenu 3 aspects. Le premier, c'est le fait qu'il soit pléthorique parce que on avait 32 ministres. Là, on est à 33. Mais en plus de ces 33, comme on l'avait dit dans notre vidéo, il y a 14 ministres gouverneurs qui ont un conflit de compétences avec les préfets de région et les présidents de conseils régionaux, alors qu'ils gèrent des milliards. Mais on a aussi d'autres postes à rang de ministres. On a des ministres des affaires présidentielles. C'est tout ça qui constitue en réalité le nombre de ministres dans ce pays. Donc, nous estimons que c'est pléthorique. La deuxième chose, c'est le fait qu'il y a des attelages qui ne sont pas logiques. Quand on met le ministère des Sports avec le cadre de vie, c'est incohérent puisque le cadre de vie a trait à l'environnement, notamment l'environnement de nos habitations. Et donc, ça devait être logé soit au ministère de l'Environnement, soit au ministère de la Construction, de Logement et de l'Urbanisme, soit au ministère de la Salubrité. Ça n'a rien à voir avec les sports. La troisième chose, c'est la suppression du ministère de la Réconciliation. Nous estimons que les Ivoiriens ne sont pas encore réconciliés et qu'il y a de grosses problématiques qui ne sont pas encore résolues pour qu'on puisse faire disparaître ce ministère.
Pulchéri Gbalé, présidente de l'ACI, Alternative Citoyenne Ivoirienne, elle a été jointe par Constant Maïlé. Le nouveau système d'immatriculation des véhicules a atteint un bon niveau de rendement. D'une 20aine de plaques il y a 4 mois, le guichet unique en est aujourd'hui à plus de 250 plaques apposées par jour. C'est le constat fait par une visite d'immersion du ministère des Transports le jeudi 26 octobre dernier. Compte rendu, Junior Cardin.
Au terme de cette visite qui a conduit le directeur de cabinet numéro 2 à suivre le circuit de l'établissement de la plaque dans toutes les directions impliquées, Abdoulaye Aliagui, au nom du ministre des Transports, a salué les efforts enregistrés.
Le nouveau système initial d'immatriculation des véhicules automobiles a été mis en vigueur. Et donc, 4 mois après, il était important donc, de venir visiter les services. Alors, nous avons fait cette visite. Nous avons constaté que tous les services sont en place et que les différents services se sont appropriés le mode opératoire qui a été défini et que les choses se déroulent bien.
Ces performances obtenues sont corroborées par des résultats tangibles dus au maillage des différents acteurs, au dire du directeur général du guichet unique, Touré Souleymane.
Le système était tributaire de bien des difficultés, au point où nous n'avions qu'une 20aine de véhicules qui arrivaient à poser des plaques en une journée. Mais aujourd'hui, grâce à la contribution donc de tous les acteurs du guichet, l'impulsion créée par le ministère des Transports, nous avons réussi à atteindre un niveau de 250 et même plus en termes de pics. Et en moyenne, c'est 200 plaques que nous posons jour. Il faut dire que c'est un travail herculien qui a été fait, mais c'est aussi l'occasion de remercier tous les acteurs du guichet.
Le code QR qui est sur la plaque symbolise cette volonté d'agir sur la sécurité routière qui est derrière l'avènement du nouveau système d'immatriculation. Et l'objectif du ministère des Transports est de faire en sorte qu'en 3 jours, un dossier soit ouvert et que les différents services puissent aller jusqu'à l'immatriculation et à la pose de la plaque.
Une note de santé dans cette édition. Aller au contact des populations villageoises pour leur expliquer dans les moindres détails les manifestations du cancer du sein et celui du col de l'utérus était l'objectif de la journée de sensibilisation qui s'est tenue le vendredi 27 octobre 2023 dans le village de Zéhiri, dans la sous-préfecture de Didoko, dans le département de Divo. Cette journée a été organisée conjointement par la direction régionale des sports du Lord du Bois en collaboration avec celle de la santé. Sur cette journée sportive, écoutons la directrice régionale des sports du Lodibois, Lundi Paul Véronèse. Elle est au micro de notre correspondant régional, Albert César Cassin.
C'est un mois qui est dédié à la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Et c'est en cela que le ministère des Sports, en collaboration avec le ministère de la Santé, a décidé de sensibiliser par le sport toutes les femmes, toutes les jeunes filles sur ces deux pathologies-là. Nous, à Divo ici, nous sommes rendus dans la sous-préfecture de Didoko, précisément dans le village de Zéhiri. Parce qu'on peut dire qu'en ville ici, les gens sont plus ou moins informés, ils sont plus ou moins au courant. Le médecin de Didoko et puis la sage-femme, on a d'abord parlé du cancer du sein et les différents symptômes. S'il y a des petites boules qui se promènent dans le sein ou bien s'il y a des écoulements, genre les menstrues. Or, les dates de menstrues qui viennent, ces populations-là ont demandé de se rendre rapidement dans les centres de santé afin qu'elles soient prises en charge. On pouvait compter 300 femmes en plus des hommes. On a fait une procession jusqu'au terrain du village où il y a eu le fitness, ensuite un match de gala qui a opposé les dames du village.
À l'instant, Lundi Paul Véronèse, directrice régionale des sports du Lodibois, interrogée par Abel César Cassin. Dans l'actualité sur le continent, un nombre record de 6,9 millions de personnes ont été forcées de quitter leurs foyers à l'intérieur de la République démocratique du Congo, a indiqué l'ONU ce lundi. Avec le conflit en cours et l'escalade de la violence, la RDC est confrontée à l'une des plus grandes crises de déplacement interne et humanitaire au monde, a déclaré l'Organisation internationale pour l'immigration, l'OIM, une agence des Nations Unies, dans un communiqué. Et puis, pour notre dossier de l'actualité du jour, rendons-nous à Mans, où on ne passe plus sur l'axe routier principal du quartier Grand Bapleu sans rencontrer des nids de poules. Cette voie si précieuse qui relie la cité des montagnes aux différentes localités du Nord connaît un état de dégradation très avancé. Conséquence de ce manque d'entretien n'est pas du goût des automobilistes et populations. Plus de détails dans ce dossier d'actualité de Stéphane Adams, notre correspondant dans la région du Tonkby.
De grands creux, des crevasses et un bitume presque inexistant. C'est le visage sombre de l'un des axes principaux de la ville de Mans passant par le quartier Grand Bapleu. Aujourd'hui, conduit sur ce tronçon est un véritable parcours de combattant pour les automobilistes comme celui-ci qui a plié l'échine.
Hier, je fais les taxis. Hein. Moi, je n'arrive pas là-bas. Hein. C'est à cause de l'état de la route, il n'y a pas de route. Si la route de Grand Bapleu, le bidon, tout est cassé. Il y a le trou même profond. Ça fait que ça gâte la voiture, quoi. Vraiment, ça nous fatigue. Une fois que tu vas, tu prends la route pour arriver là-bas, là. Au retour, déjà, beaucoup de pannes, donc il faut aller au garage, aller réparer les trucs. Donc ça fait qu'on n'arrive pas là-bas.
Une situation bien dommageable pour cette habitante du quartier.
Toi, Nadège, ça va au moins 30 minutes que je suis là. Pour avoir un taxi pour aller au quartier, Grand Bapleu, je n'arrive pas à gagner d'abord à cause de la route. C'est trop gâté. C'est une grande voie. Ça va à Kubli, Feignan Pleu, il y a quartier Capen, il y a Kogouin, il y a Kwangouin 2. On attend actuellement le maire à ce qu'il vienne à nos aides. Parce que vraiment, on souffre. Il n'a qu'à beaucoup penser à nous, arranger la route pour nous.
Le pire de cette voie dégradée. Des gares routières secrètes sur la chaussée, rendant davantage la circulation difficile.
Zosegui, il fait la ligne Bonne Maman Bonne. C'est pas une gare qu'on a créée à côté, ça dépend de la route. Sans, on était à la gare de Fakoubli, mais aujourd'hui, on voit que même là, les passagers même n'ont pas le courage même de venir là-bas. Parce que la route est gâtée. Si la route était propre, c'est quelqu'un qui est garé ici. Groumé même est tombé avec les gens ici. 2 kilomètres à même, on ne comprend même pas, on ne sait même pas. Conseil régional ne peut pas faire, mairie aussi ne peut pas faire. On ne sait pas où on va partir. Tout le monde souffre.
Au regard de l'état de dégradation très avancé de l'axe principal de Grand Bapleu, cette commerçante exprime son amertume.
C'est à Sati Lidiane. Nous, on vient du village. On prend les bagages au village Bonnet pour envoyer à Mans. Mais la route là, ça ne nous arrange pas. Souvent, tu prends, tu payes tes bonbons au village. Au moment où tu es arrivé en ville là, tout est versé à cause de la route. La route est gâtée. C'est mal gâté même. C'est le gros, gros trou. Et puis quand il pleut même là, il y a des taxis même qui se noient dans l'eau là-bas. Moi-même, où je suis là, je suis enceinte. Au fond, je suis montée dans la voiture, quitter à la gare des Fois Coblis pour arriver à Paouin 2. Il a commencé à vomir. Mon ventre a commencé à me faire mal. Pourtant, je ne suis même pas arrivé encore à quelque part. Donc, la route, ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas du tout. Même. À quoi ça, on ne peut plus venir à main. On souffre. On ne sait pas ce qu'on va faire. Donc, pardonnez, donc, arranger la route là. Là, on va bien vivre.
Devant toutes ces préoccupations, vivement que l'entretien de ce tronçon se fasse le plus rapidement possible pour la sécurité et le bonheur des usagers. Stéphane Adams, Man, Radio de la Paix.
Le Sénat ivoirien compte 99 sénateurs, dont 2/3, 66, sont élus au suffrage universel indirect. Le tiers restant, 33, est désigné par le président de la République. Des 2/3 élus, seulement 6 sont issus du PDCI-RDA, parti d'opposition. Toute chose qui rend compliquée la création d'un groupe parlementaire de l'opposition au regard des tests qui régissent l'institution. Comment résoudre la question en vue d'éviter un Sénat monocolore avec pour seul groupe celui du RHDP? Pour en parler, dans le cadre de l'invité de la rédaction sur Radio de la Paix, Gapiona Ouattara reçoit Geoffroy Julien Kouao, il est analyste politique.
Monsieur Geoffroy Julien Kouao, bonjour.
Bonjour Monsieur Ouattara.
Candidat unique du RHDP et ex-ministre des Affaires étrangères, Kandia Kamisoko Camara a été élue le 12 octobre dernier présidente du Sénat. Cependant, la question de la composition des groupes parlementaires de l'opposition se pose. Comment remédier à cette difficulté?
À l'observation, l'opposition n'a pas les moyens actuels pour former un groupe parlementaire au niveau du Sénat. En ce sens que les dispositions pertinentes du règlement intérieur du Sénat stipulent que pour créer un groupe parlementaire, il faut avoir au moins 8 sénateurs.
C'est ça.
Or, aujourd'hui, quand on regarde bien la composition du Sénat, le PDCI-RDA n'a que 6 sénateurs, ce qui met ce parti dans l'impossibilité de former un groupe parlementaire. Alors, que faut-il faire? La seule chose à faire, c'est de réviser le règlement intérieur du Sénat. Et cela peut se faire à la demande d'une vingtaine de sénateurs, encore que tous ces sénateurs-là sont membres du RHDP. Donc, il va falloir certainement une volonté politique pour demander aux sénateurs de réviser le règlement intérieur à l'effet de ramener le quorum de 8 à 6 sénateurs pour former un groupe parlementaire. À défaut, nous aurons un Sénat monocolore.
Un Sénat monocolore, est-ce une bonne image pour la démocratie en Côte d'Ivoire?
Oui, la démocratie, elle est plurielle, elle est diverse. Et dans une assemblée délibérante comme celle du Sénat, il faut plusieurs sensibilités politiques. Mais le problème, c'est que les sensibilités politiques naissent à partir des élections. Malheureusement, les dernières élections ont montré qu'il y avait une seule sensibilité politique en Côte d'Ivoire, c'est celle du RHDP. Donc, le jeu démocratique a été fait. Il n'y a pas d'anomalie en tant que telle. C'est parce que nous sommes aujourd'hui dans une démocratie avec un parti présidentiel extrêmement dominant. Il faut donc peut-être que les partis d'opposition, c'est-à-dire le PDCI, le PPACI et autres, réajustent leur stratégie politique pour pouvoir, lors des prochaines élections, avoir des représentants au niveau des deux chambres du Parlement pour avoir plusieurs groupes parlementaires.
On a également assisté le mardi dernier à Yamoussoukro à la mise en place des organes de l'institution du Sénat. Quelle importance cela revêt selon vous?
Oui, mais le Sénat est une institution et comme telle a une organisation, un fonctionnement et des attributions. Et au niveau des organes, il y a le bureau, il y a ensuite les commissions permanentes, les groupes parlementaires et autres qui animent le fonctionnement du Sénat. Et donc, c'est normal que ces organes se mettent en place pour animer effectivement le Sénat. Le problème, c'est que dans ces commissions, l'opposition ne sera pas suffisamment représentée parce qu'elle n'a que 6 représentants sur 99, ce qui est largement insuffisant. Mais attention, la faute n'incombe pas au RHDP, encore moins au test du Sénat. Non, le test du Sénat comme le test de l'Assemblée nationale permettent une représentation proportionnelle de l'opposition dans toutes les instances. Mais encore faudrait-il qu'il y ait des sénateurs de l'opposition. À l'observation, il n'y en a pas assez. Et donc tout cela est regrettable, mais ça doit nous amener à la réflexion, à la recherche d'une innovation politique quant à revoir le cadre juridique des élections, le cadre théorique, même le cadre institutionnel, pour permettre une meilleure représentativité des différentes sensibilités politiques. On peut par exemple revoir le mode de scrutin, etc. On peut aussi par exemple revoir par exemple les conditionnalités de candidature aux différentes élections. Bref, si on veut avoir une démocratie plurielle, par définition, et non une démocratie populaire, il nous faut redéfinir le cadre théorique, juridique et institutionnel de nos élections.
Parlant effectivement des différents partis d'opposition, on assiste au niveau du PPACI à un réaménagement dans la direction du parti. À l'analyse, qu'est-ce que cela vous inspire?
Non, c'est simple. Laurent Gbagbo a tiré les conséquences de la dernière débâcle électorale de son parti aux derniers scrutins électoraux au niveau des élections locales et de l'élection sénatoriale. Il tire donc les conséquences et il a compris que si en 2025 le PPACI veut compter sur l'échiquier politique national, il lui faut un nouveau souffle avec une nouvelle direction. Et c'est ce qui explique à mon sens ce réajustement de la direction du PPACI qui certainement aura deux principales missions. La première consistera à permettre à Laurent Gbagbo de se réinscrire sur la liste électorale, donc à la régularisation, veiller à la régularisation du statut pénal de M. Laurent Gbagbo avec son corollaire qui est sa réinscription sur la liste électorale. Et puis ensuite, la deuxième mission, c'est mettre en place une machine électorale qui va permettre au PPACI d'être présent aux élections législatives et présidentielles qui s'annoncent pour les deux années à venir.
Merci encore à vous, M. Geoffroy Julien Kouaou.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Voici qui met un point final à cette édition, mais avant le rappel des titres. Le gouvernement ivoirien prêt à accompagner le patronat pour un secteur privé plus dynamique et plus performant. C'est l'annonce faite par le Premier ministre lors de la cérémonie de clôture de la 11e édition du Forum économique CGC Academy 2023. Et puis parlant de transport, le guichet unique améliore son système d'immatriculation des véhicules. Dans l'actualité sur le continent en RDC, plus de 6,9 millions de déplacés internes du fait de la guerre ces derniers jours, un record selon l'ONU. Dans le cadre de l'invité de la rédaction, Gapiona Ouattara a reçu le juriste et politologue Geoffroy Julien Kouaou. Il était question de la création des groupes parlementaires au Sénat où la quasi-totalité des membres sont du parti au pouvoir RHDP. Merci et prochain rendez-vous de l'actualité, 15h. Comme annoncé dans les titres, la revue de la presse de ce jour est présentée par Aoussi Potin.
Bonjour à tous. Le président sénégalais Macky Sall a foulé le